Bonjour.
Bonsoir.
Donc je vais parler le premier, si vous permettez.
Absolument.
Donc, moi, je suis bordelais. J'ai l'honneur de recevoir Madame Morel-Journel qui va nous parler de son livre sur les lettres manuscrites de Le Corbusier. Le Corbusier est connu pour plein de choses, mais ce qu'il a en partie fait connaître au départ, c'est son écriture. D'ailleurs, sa carte d'identité, quand il est en France, c'est « homme de lettres ». Ce n'est pas architecte, ni designer, ni autre porteur de métiers différents. Homme de lettres, et il a toujours écrit, beaucoup écrit. Là, nous allons parler des lettres manuscrites, mais il a fait aussi beaucoup de lettres tapées à la machine, qu'il faisait parfois lui-même, d'ailleurs, parce qu'au début, ils étaient une toute petite équipe, il n'avait pas de secrétaire. Il a toujours été une petite équipe, d'ailleurs.
Oui.
Voilà, et donc, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, qui est fait par une maison d'édition qui s'applique à faire des ouvrages un peu rares, et qui étaient très bien édités, l'intérêt, c'est que là, on va découvrir un Le Corbusier moins connu que nous le connaissons par ses œuvres ou parce que les revues d'architecture ou la presse et les médias en général en ont dit. Voilà.
Donc. Absolument. Donc, le principe de ce livre, qui appartient à une collection qu'ont déjà les éditions textuelles, c'est une collection de facsimilés de lettres. Ils ont publié les lettres à Lou d'Apollinaire, donc ce n'est pas du tout spécialisé dans l'architecture. Et le propos consiste à réunir un corpus de lettres et de les reproduire telles quelles, en facsimilé de bonne facture, de manière à considérer en fait les lettres comme un objet en soi, comme un objet littéraire et un objet aussi pour les yeux, puisque dans le cas de Le Corbusier, souvent, ces lettres sont illustrées de sa main par des croquis, parfois assez savoureux, surtout quand il les envoie à sa famille. Et comme Le Corbusier a toujours écrit parce qu'il avait cette fibre-là, qu'on connaît effectivement moins, on a vraiment le moyen de suivre toute sa vie depuis ses 20 ans, parce que jusqu'à 20 ans, c'était un petit garçon assez timoré, et donc il n'était pas parti de chez ses parents. Mais à partir de 1907, donc l'année de ses 20 ans, il commence à voyager un peu partout dans le monde, et à partir de 1917, donc il a 30 ans, il s'installe définitivement à Paris, alors que ses parents et sa famille étaient originaires d'une petite ville du Jura suisse qui s'appelle La Chaux-de-Fonds, où l'industrie la plus importante et presque unique de cette ville était l'industrie horlogère. Et donc Le Corbusier, qui s'appelait à l'époque Charles-Édouard Jeanneret, était promis à une carrière de graveur de boîtiers de montres, dont il s'est éloigné relativement rapidement à l'instigation d'un de ses professeurs à l'école d'art de La Chaux-de-Fonds, où il était depuis ses 14 ans. L'école d'art, en fait, c'était une école, disons, professionnelle d'art appliqué, donc pas du tout quelque chose d'une formation supérieure ou vraiment artistique. Et d'ailleurs, Le Corbusier se réclamera de cette, disons, absence de formation en invoquant toujours le fait qu'il était autodidacte, ce qui est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il a quand même fait des voyages, il a rencontré des gens qui l'ont aidé, qui l'ont aiguillé vers différentes pistes à suivre. C'est comme ça qu'une des premières lettres qui est publiée là est une lettre à Auguste Perret. Auguste Perret, architecte, pionnier du béton armé à Paris, qui était également entrepreneur, chez qui Le Corbusier, donc, qui s'appelait encore Jeanneret, atterrit un peu par hasard. Et il restera un peu plus d'un an chez lui, comme gratteur, on dit, enfin comme salarié de l'agence. Et Perret, qui lui a fait, même s'il n'a pas terminé, a fait les Beaux-Arts à l'époque, instruit en fait et communique à Jeanneret un certain nombre de références, disons, savantes, notamment il lui fait lire Viollet-le-Duc, il le fait aller dans des musées, et donc Le Corbusier commence à se faire une petite vernis culturel plus savant qu'il ne l'avait eu à La Chaux-de-Fonds.
Oui, d'ailleurs, Le Corbusier l'envoie même visiter le viaduc de Garabit. Et il lui envoie même à Lyon voir l'architecte Tony Garnier, qui était en train de faire les dessins de la cité industrielle. Donc ça, ça va faire partie effectivement de son éducation, et certainement qu'il en a gardé quelque chose, parce que pendant ses voyages, il avait un carnet de notes et il notait énormément déjà.
Absolument.
Et il faisait des croquis et il relevait les cotes des meubles, des ouvertures, des portes. C'était une obsession. On le trouve dans les lettres que vous avez dans cet ouvrage, la largeur des portes. Il voulait réduire la largeur des portes pour pouvoir donner plus d'espace dans les pièces, etc.
Oui, l'autre corpus, en fait, disons, manuscrit très important de Le Corbusier, qui était également peintre, qui était un dessinateur extraordinaire. Donc, une partie de ce corpus, ce sont ses carnets de croquis, dans lesquels il dessine, éventuellement au crayon, à la plume, crayon de couleur, parfois des pastels, parfois même il fait des aquarelles. Et Le Corbusier a en permanence ses carnets de croquis dans sa poche durant toute sa vie. Donc, on a des centaines, peut-être que j'exagère, mais enfin, en tout cas, plusieurs dizaines de carnets qui suivent toute sa vie. Il y avait également des petits agendas dans lesquels, souvent, on trouve des manuscrits préparatoires pour ses livres, parce que on n'a peut-être pas rappelé, mais Le Corbusier, donc, qu'on connaît pour ses bâtiments, forcément les plus célèbres, comme la cité Frugès, dont on pourra parler, mais la Villa Savoie, le couvent de la Tourette, Ronchamp, Chandigard. Le Corbusier a en fait publié, je dis bien publié, pas simplement écrit, autant de livres qu'il a réalisé de bâtiments. Donc c'est autant un écrivain, on peut dire, qu'un bâtisseur. Il a peint énormément aussi, donc il avait vraiment cette multiplicité
D'ailleurs,
discipline à son
je
arc.
Le coupe pour qu'on fasse dialogue.
Bien sûr, oui.
En fait, il n'était pas peintre au départ. Il était plutôt dessinateur. Et il rencontre à Paris Aux Enfants, grâce d'ailleurs à Perret. Mm-hmm. Et Aux Enfants, lui, était peintre. Il était un dilettante, comme c'était un peu à l'époque. Mais Aux Enfants peignait surtout. Et il lui dit, je vais vous apprendre à peindre. D'ailleurs, Le Corbusier lui demande à apprendre à peindre mieux. Et donc, ils vont où ? Ils vont à Andernos, vous n'êtes pas bordelaise, mais à Andernos, qui est au bord du bassin d'Arcachon, ici, très tôt, 1918. Et à ce moment-là, Le Corbusier découvre le bassin d'Arcachon, ce qui ne sera pas innocent plus tard. Et là, il apprend à peindre et il demande aux enfants de lui donner la technique de la peinture à l'huile qu'il ne connaissait pas, parce qu'il savait surtout faire des aquarelles.
C'est vrai qu'il aux enfants et le fait d'arriver à Paris l'autorise à se sentir plutôt un vrai artiste, alors qu'à la Chaux-de-Fonds, il serait resté un artisan, quelqu'un qui maîtrisait les arts appliqués de manière un peu utilitaire. Donc, arrivant à Paris dans les milieux d'avant-garde, notamment avec Amédée Aux Enfants, leur premier projet, c'est effectivement de peindre. Ils font ensemble une première exposition en 1918 et ils publient le premier ouvrage, disons significatif, de Le Corbusier. C'est tout petit, mais il l'écrit avec Amédée Aux Enfants et ça s'appelle « Après le cubisme ». C'est-à-dire qu'il fonde un nouveau mouvement pictural qui prône finalement une espèce de retour un peu à l'ordre, comme ça se fera pendant l'entre-deux-guerres après. Qui s'appelle le purisme, et donc le mouvement puriste qui aura des influences sur l'architecture dite puriste de Le Corbusier commence par la peinture, et la peinture à l'huile de Chevalet est effectivement une des premières raisons, disons, de la proximité d'Amédée Aux Enfants et Le Corbusier.
C'est un mouvement peu connu parce qu'ils étaient deux, plus quelques autres, mais au départ ils sont tous les deux agréés ce mouvement.
Absolument. Et en même temps qu'ils créent ce mouvement, très vite, ils veulent publier une revue d'avant-garde, qui, d'ailleurs, le papier en tête, ils avaient acheté énormément ou imprimé sans doute beaucoup de papier en tête. Jusqu'à la fin de sa vie, on verra, dans certaines lettres, Le Corbusier continue à écrire à la main sur des papiers en tête de la revue L'Esprit Nouveau, qui s'arrête en 1925. Mais donc, entre 1920 et 1925, il publie 28 numéros de cette revue qui connaît un très très grand, enfin très très grand, faut pas exagérer non plus, mais enfin un grand succès dans les avant-gardes, notamment dans les avant-gardes internationales, c'est-à-dire qu'ils correspondent avec le Bauhaus en Allemagne, avec le mouvement de style aux Pays-Bas, avec les futuristes italiens. Adolf Loos, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un article qui a fait sensation au début des années 10, qui s'appelle « Ornement et crime », où effectivement il dénonce toute pratique de la décoration dans l'architecture, publie dans l'Esprit Nouveau. Donc c'était vraiment une revue extrêmement accueillante à toutes les dernières tendances artistiques, mais aussi philosophiques, mathématiques, sociologiques. Et c'est une revue en fait très généraliste.
Et là je vous coupe la parole pour vous dire que... dans les lettres, justement, on va sentir ce que je vais dire là maintenant, c'est que Le Corbusier a le sentiment qu'il a, quelque part, un destin. Que tout au moins, le monde l'attend. J'exagère un peu, mais c'est ce qu'il écrit presque.
Oh oui, tout à fait.
Et qu'il faut absolument qu'on connaisse sa compétence, ses choix architecturaux. Et effectivement, quand il va arriver à Paris, il ne connaît pas grand monde. Et donc, il va, par le hasard des rencontres, se débrouiller pour réussir à rentrer dans le monde le plus intellectuel de Paris. Et nous sommes dans les années, d'abord, avant la guerre de 14, il est à Paris. Et il reste pas. Et quand il revient, il avait fait quelques attaches comme ça. Il va essayer d'être le plus proche d'un certain nombre d'intellectuels bien pensants et surtout argentés qui permettaient de participer au financement de sa revue pour partie. C'est une dame notamment, et de participer ensuite à son développement. Il voulait à tout craint réussir. Il a encore rien construit, mais il est rempli d'idées. Et surtout que vous l'avez dit, il a fait des voyages qui l'ont beaucoup enrichi, notamment au Moyen-Orient, mais surtout en Italie. Mais surtout, grâce à son professeur, le Platonnier, il est parti dans le sud de l'Allemagne et il a rencontré, par le plus grand des hasards, il a été au bon moment, au bon endroit, il a rencontré les architectes de Gropius, notamment, qui avaient mission de développer des ateliers de travail pour qui étaient universels, je puis dire, dans lequel l'architecture n'était qu'une part, qui allait du meuble, en passant par des outils, en passant par le graphisme, en passant par ce qui va devenir le Bauhaus. Il est là à ce moment-là. Et il se dit, il prend des notes tout le temps. Il prend des notes. Et là, il arrive à Paris, il est enrichi de ça.
Oui, absolument. À l'époque, il ne rencontre pas encore Gropius, parce que Gropius n'est pas encore en charge du Bauhaus. Ça se fait après, dans le cadre justement de la revue L'Esprit Nouveau. Mais en revanche, il rencontre les cités d'artistes à Hellerau, des choses, disons, qui resteront un peu moins connues. Mais il commence à mettre le pied dans un univers qu'il ne connaissait pas, qui est un univers d'artistes, de gens éclairé et univers qu'il remobilisera à l'occasion de la création de l'Esprit Nouveau pour avoir des tas d'auteurs. En fait, ce n'étaient pas des auteurs bien pensants à l'époque. C'était plutôt souvent des écrivains d'avant-garde. Alors, c'était très mélangé, puisqu'il y avait notamment le mathématicien Henri Poincaré qui a écrit. Il y avait des philosophes comme Charles Henry, qui était un philosophe pré-phénoménologue qui était professeur à la Sorbonne. Enfin, il y avait des profils vraiment très, très différents et plutôt, à ce moment-là, plutôt à l'avant-garde. Après, Le Corbusier est un peu moins en prise avec ces milieux-là parce qu'il commence à faire carrière. Il n'a plus besoin, on pourrait dire, il n'a plus vraiment besoin de se lier avec des gens qui pourraient lui apporter quelque chose, sachant que par ailleurs, maintenant, il est sollicité. Donc, il n'a plus lui-même à solliciter les gens et sa carrière est entamée. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que dès son plus jeune âge, il est convaincu qu'il a effectivement un destin de créateur, mais non seulement de créateur, mais aussi de penseur de l'architecture et de la ville moderne. Il est persuadé qu'on est dans une époque nouvelle, que la machine a bouleversé les données, disons, de l'époque et qu'il faut se saisir des paquebots, des avions, des automobiles pour repenser aussi la manière d'habiter.
comme modèle en fait d'industrialisation. Il voudrait que la maison qu'il a appelée un peu trop hâtivement la machine à habiter, ce qu'on lui a quelquefois reproché, alors qu'il voulait dire que c'était une maison qui aurait été préfabriquée industriellement, c'est là que le mot machine devait être interprété, pour pouvoir donc fabriquer industriellement, comme on fabriquait des avions et comme on fabriquait des bateaux, ce que vous avez dit. Voilà. Mais il était surtout aussi un peu préoccupé par le grand nombre. Il voulait qu'on construise pour beaucoup de monde.
Je rebondis sur cette expression de la maison est une machine à habiter. De même qu'il a dit le fauteuil est une machine à s'asseoir. Il ne faut jamais oublier, quand on lit maintenant les propos de Le Corbusier, qu'il y avait une grosse part de provocation. En fait, le plan voisin en 1925 qui propose de raser tout le centre de Paris, c'est pour beaucoup une manière d'occuper le terrain de la provocation, des discussions dans le monde. Donc en fait, Le Corbusier ne pense pas... C'est une manière, disons, d'enlever du pathos à l'idée d'habiter, de désembourgeoiser les logements. Mais par ailleurs, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment lui-même vivait. Et pourtant, il vivait dans sa propre architecture. Ce n'était pas du tout quelque chose qui aurait été de l'ordre du standard où les gens sont contraints de manière terrible. Ce n'est pas ça l'idée, même si la formule y est. Parce que Le Corbusier, et ça, le livre a permis de le faire. Ben alors, je vous laisse.
Non, ce que j'allais dire, c'est que ce que dit Madame est apparent dans le livre. C'est en lisant ses lettres que l'on découvre ce côté provocateur qu'il assume, d'ailleurs.
Ah, totalement.
Il dit « je suis un provocateur ». Il ne dit pas « je ne fais pas exprès ». Il dit « je fais exprès pour pouvoir mettre les gens devant leurs responsabilités. Je hais les architectes et l'Académie d'architecture et je veux absolument que... » Alors, il reprend l'autre, etc. On fasse pas d'ornementation, qu'on aille au sujet directement, à la fonction, etc.
Oui.
Et ça, c'est très bien dans les courriers. Ça, c'est
Le Corbusier se sent une âme de prophète. Il pense même plusieurs fois, en fait, il écrit plus ou moins qu'il prophétise les temps nouveaux et que donc, en tant que prophète, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, qu'il devrait être beaucoup plus entendu. Mais il s'adresse, certaines de ses textes, qui sont des textes dont certains seront publiés en tant que tels, il y a un texte donc assez important en 1930, alors qu'il est en train de proposer des plans successifs d'urbanisation pour Alger. Ce texte, il y en a un qui s'appelle « Lettre à un maire ». Et en fait, pour décrire son projet et donc toutes les motivations qu'il y a derrière, il le fait sous la forme d'une lettre fictive, pour le coup, au maire d'Alger, dont je ne me rappelle plus le nom à l'instant. Et il développe toute son argumentation comme si c'était une lettre. Il s'adresse, il a une dimension très, très de pamphlétaire, en fait. Il harangue les lecteurs pour les gagner à sa cause, puisqu'il s'agissait vraiment d'un combat pour l'architecture moderne. Se sentait l'âme d'un combattant.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, justement, dans cet ouvrage sur Le Courrier, c'est que on ne voit pas, c'est tout ce qui est dans l'ouvrage, là, c'est tout l'intérêt de ce livre. On ne parle pas dans ce livre, il n'y a pas de photos, ou très peu, c'est surtout des croquis de son travail. Mmh. C'est un livre sur l'homme, qui est en fait Le Corbusier. Et en fait, il n'est pas du tout... Ça, c'est mon opinion. On ne se connaît pas, on se rencontre pour la première fois. Ce n'est pas du tout l'homme brutal dans ses propos, sévère dans son attitude, dur dans ses relations, tel qu'il a été décrit en général, et notamment dans un livre que je n'accepte pas de François Chalin, que je connais. Ce n'est pas du tout un fasciste, Le Corbusier. Ce n'est pas vrai. Et quand on voit comment il écrit à sa mère et à sa femme, qu'il appelle Vonvon, mon petit Vonvon, il est là, il se plaint, il dort pas, c'est fatigant, il fait du taylorisme parce qu'il faut qu'il arrête pas de travailler, etc. Et on voit un homme à ce moment-là fragile, des fois pas tout à fait sûr de lui. Enfin, il est sûr qu'il est un destin, que c'est un prophète, mais des fois il dit, il finit par douter par moments. Et c'est ça qui est intéressant dans ses lettres, parce qu'on s'aperçoit que pour créer une œuvre comme il l'a faite, considérable, qui va peut-être être retenu par l'UNESCO comme patrimoine mondial, il est passé par des moments de doute, notamment quand il est à Paris au début.
Oui, absolument. Là, il était encore, jeune homme. Mais ce dont je me suis rendu compte, on s'est appliqué avec l'éditeur à sélectionner, il y a 53 lettres qu'on a retenues. Et en fait, un tiers est à sa famille, donc à sa mère, à sa femme, et à son frère. Et essentiellement parce que son père meurt assez jeune. Et donc là, on a, c'est vrai, une approche de Le Corbusier qui est tout à fait inédite, puisque, et qui est de première main, puisque là, ses lettres, bon, il demandait qu'on les garde, mais en revanche, il ne les écrivait pas pour qu'elles soient publiées du tout. C'était pas un effet de style rhétorique. En revanche, il y a donc aussi à peu près les deux tiers du livre qui sont à certains de ses clients, à des amis, artistes ou non, comme Fernand Léger, Blaise Cendrars, Picasso, dont il n'était pas si proche que ça. Donc, à ses clients, à des amis artistes, à des gens avec qui il avait l'occasion de travailler. Beaucoup aussi dans le cadre des congrès internationaux d'architecture moderne, qui était un groupe d'architectes internationaux qu'il avait cofondé avec d'autres en 1928 et qui durera jusqu'en 1960, qui sont donc des colloques annuels qui réunissent des architectes, mais plutôt des architectes praticiens, qui sont réunis autour de la volonté de faire avancer la cause de l'architecture moderne. Et Le Corbusier est un des moteurs de ces SIAM, puisqu'on les appelle comme ça, des SIAM. Et là encore, ça montre son penchant pour la communication. Il veut faire passer un message. Alors, quelquefois, c'est le message de ses propres créations, mais c'est aussi le message de des collègues qui partagent les mêmes idées modernes que lui. Et à travers ces différents types de courriers, ces différents types aussi de destinataires, je me suis rendu compte après coup que finalement, c'était comme d'avoir reconstruit une autobiographie de Le Corbusier, que sans le faire exprès, j'avais fait une espèce de pseudo-autobiographie de Le Corbusier, puisque les textes, le fond du propos, ce sont ses propres paroles. Et ses paroles, même quand il parle d'architecture en général, d'art ou de questions d'argent, enfin des choses très très prosaïques, ces paroles, au fond, le décrivent l'homme et sa pensée. Et avec les quelques... À chaque lettre, j'ai proposé une petite introduction pour situer le contexte, le destinataire, etc. Finalement, ça recrée une histoire un peu en creux de, bien sûr, Le Corbusier en tant qu'artiste, mais aussi de cette époque-là, parce qu'on finalement on découvre les milieux artistiques des années 20, 30, 40, 50 à Paris, on pourrait peut-être presque déjà dire la mondialisation du parcours des grands architectes, puisqu'il travaille aux États-Unis, donc en Inde, à la fin aussi un peu au Japon. Enfin, il se déplace
plus tard,
énormément.
Plus tard,
absolument.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tout ce que vous dites, et qui est tout à fait passionnant dans ce livre, à un moment donné, c'est au mois de juillet de 1918, le 31, il écrit à ses parents, voilà, maintenant je vais vous écrire tous les jours, je résume, je ne veux pas lire la lettre, hein, mais voilà comment nous allons faire. Vous devez d'abord, vous, me répondre à chacune de mes lettres. Et si je vous envoie 3-4 lettres, n'attendez pas la quatrième pour me répondre, maintenant j'ai reçu les lettres. Je veux que vous me répondiez à chaque lettre. Et vous commencez par dire, j'ai bien reçu ta lettre du temps. Je voudrais que vous me disiez comment va ceci, comment va cela, comment vous allez, comment vous faites, etc., etc. Il leur donne un ordre d'écriture et la façon de faire. Alors, quelque part, il a ce côté un peu rigoureux de protestant jurassien.
Ah oui, c'est pas... Comment dire, il fait pas dans la dentelle. Hein, c'est pas un tendre. C'est pas... Il faut que les choses... Enfin, si, c'est un tendre, surtout à la fin de sa vie, dans les lettres à sa femme qui est très malade. Il culpabilise un peu parce qu'il l'a beaucoup délaissé pour voyager, en fait, partout dans le monde.
Et, il passait pas Noël avec elle.
Il passait jamais Noël avec elle. Il passait Noël avec sa maman. Donc, c'était pas non plus... c'est assez étrange. Sa mère est morte à plus de 100 ans. Ou à 100 ans, je sais plus. Et elle, jusqu'au bout, il était très, très, très proche d'elle. Mais donc... Son petit Von, comme il l'appelait aussi, à la fin de sa vie, est alcoolique au dernier degré, une cirrhose, donc est vraiment en très mauvaise santé. Et il y a une des lettres des années 50 qui est reproduite où il lui fait des petits croquis en lui disant « J'ai vu dans le journal que la cigarette, c'était très mauvais pour la santé, donc regarde, cigarette plus alcool. » Il fait un petit écorché, en fait, d'Yvonne avec la clope au bec et un verre de pastis à la main. « C'est très mauvais pour ce que tu as, ne fais pas arrête de boire, je t'en supplie, je t'aime, etc. Donc
des... Oui, là, là vous jouez très bien la comédie. Je ah sais bon pas si... Parce que moi, je l'ai lu, cette lettre, c'est un peu plus dur. Alors, arrête de boire, c'est plutôt comme ça qu'il dit. Moi, tel qu'il le disait, tel que j'ai lu, j'ai interprété, je l'ai trouvé un peu combinatoire. Tu te fais mal, tu vas te détruire. Non.
C'est-à-dire, c'était les deux. Non, avec elle, il était extrêmement paternaliste, en fait. Ouais. Et pas. Non, non. Puis en plus, elle tranchait complètement sur ce milieu-là. Elle avait son franc-parler. C'était pas du tout une intellectuelle, pas du tout une artiste. Donc, elle faisait la cuisine. Mais au fond, Le Corbusier a toujours dit qu'elle, c'était une espèce de pilier autour de. Qui la stabilisait. Donc, pendant la guerre aussi, il se soucie d'elle. Au début des années 50, donc elle est très malade. Il est au fin fond de Chandigarh. Dans ses agendas, on voit une trace. Acheter pantoufles Yvonne, taille 35. Donc, il va lui acheter ses pantoufles. Il vérifie si elle a bien mangé. Enfin, non, c'est peut-être sur un mode autoritaire, mais c'est en tout cas extrêmement attentionné.
Non, mais c'est vrai qu'il aimait beaucoup cette femme, mais il n'a pas beaucoup, il n'a pas été d'une grande chaleur et permanente à ses côtés. Hein.
Absolument.
Parce que son destin, oui, c'est avant.
Absolument, c'est ça. C'est pas. Je vois que vous avez la page ouverte à une lettre à Joséphine Baker, parce que alors ça a toujours beaucoup amusé les biographes de Le Corbusier, parce qu'effectivement, ils se sont rencontrés sur un paquebot lors d'un voyage transatlantique en 1929 entre la France et le Brésil ou Buenos Aires, enfin, je ne sais plus lequel. Ils ont beaucoup sympathisé. Et Le Corbusier, on a des traces de dessins extrêmement beaux, d'ailleurs, très émouvants, de Joséphine Baker endormie sur un oreiller, le visage très détendu, comme si c'était après l'amour. Et donc, ça suffit pour que les langues aillent bon train, sauf qu'en fait, un chercheur très très pointu a pu établir que c'était un dessin qui avait été fait d'après photo. Donc, les quelques lettres, pour le coup, qu'on a échangées entre eux montrent que c'était plutôt des relations de travail qu'ils avaient. Enfin, il souhaitait lui faire acheter des projets.
Voilà, c'est intéressant. C'est pour ça que j'avais cette page à cause de cela, parce que tout le monde dit qu'il a eu une éventuelle relation avec Joséphine Baker, mais bon, il sortait beaucoup. Enfin, il était dans le monde. Et en fait, il lui écrit quelques temps après, en 1935, le 4 février, à Paris, en disant « Mais vous m'avez laissé tomber, je ne lis pas toute la lettre, parce que vous m'aviez dit que quand vous feriez votre village, vous appelleriez à moi. Et vous avez pris quelqu'un d'autre. Enfin, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et là, on voit bien que cette relation, elle était peut-être une relation professionnelle plus qu'affectueuse, puisqu'il ne lui parle pas d'amour, il ne lui parle pas de moments passés ensemble. Il parle d'un projet qu'elle aurait dû lui confier.
Oui. Alors, de toute façon, Le Corbusier, c'était toujours... avait tendance... Non, pas tout le temps, j'exagère. Mais avait tendance à mélanger les genres. Donc, dans le cas de Joséphine Baker, certes, c'était donc vraisemblablement pas du tout une relation amoureuse. Ça n'était pas non plus du tout qu'une relation, disons, de cliente avec une cliente potentielle. Mais il était également complètement fasciné. Et ça, il l'a écrit à plusieurs personnes, dont sa mère, d'ailleurs. Il était fasciné par le côté enfantin, naturel, sans apprêt de Joséphine Baker. Et ces qualités-là qu'il retrouvait chez sa femme, d'ailleurs. Donc, quelquefois, il en parle de la même manière. Donc, c'était quand même une amitié, disons, réelle. Mais et puis, il aimait beaucoup les danseuses. Donc, et puis, elle avait un corps bien fait. Donc, il appréciait ça en tant que peintre, en fait. Voilà, absolument. Et donc, il y a ces aspects comme ça un peu... jamais aussi simples qu'on pourrait l'imaginer.
Voilà. Mais c'est là aussi qu'on voit sa fragilité. Parce que lui, qui à ce moment-là, à 35, est l'architecte à la mode, qui a su se mettre en avant, qui a su récupérer beaucoup d'idées, qui a su dire c'est moi qui vais faire ceci, c'est moi qui veux faire cela. Moi, je pense même que les couleurs de Fruges, qui sont la première manifestation importante d'immeubles colorés dans l'histoire de l'architecture dans le monde, il n'est pas tout seul. C'est le père Fruges qui aimait la peinture, qui l'a beaucoup excité à le faire, parce qu'elles ont été peintes en blanc au départ. On a d'ailleurs les photos de chantier. Et j'ai retrouvé, moi, les lettres de M. Fruges, ce n'est pas les lettres de Le Corbusier, lui disant, mais ces maisons sont blanches, je ne peux pas les vendre, on appelle ça le Maroc ou le Rigolarium, il faut absolument peindre les maisons. Donc, après, il dit, c'est moi qui ai inventé le truc. Très bien. Alors ça, il est toujours assez récupérateur. Mais on voit très bien qu'il est fragile aussi, parce que autant dans la lettre à Joséphine Baker que dans d'autres lettres, notamment avec Badovici, Il dit, mais vous ne m'aimez pas, quelque part. Je le traduis là, je le résume. c'est un peu ce qu'il dit. Vous m'avez laissé tomber. Il a besoin d'être aimé.
Aussi. Ah oui, il est un peu paranoïaque même, n'ayons pas peur des mots. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi très très drôles, ça, j'en ai pas mis beaucoup, mais à la fin de sa vie, il est assez proche d'André Malraux, qui était donc le premier ministre de la culture de Gaulle.
Qui a fait un très bel hommage au jour de sa mort.
Voilà, qui est magnifique. Et le Corbusier met la breuve de l'être, c'est-à-dire que toutes les semaines, le pauvre Malraux recevait des lettres pour telle cause ou telle autre. Alors, souvent, c'était pour le Corbusier. Il fallait protéger la Villa Savoie parce qu'elle allait être détruite. Il fallait pousser l'Inde à le payer pour ce qu'il faisait à Chandigarh. Mais il l'écrivait aussi à Malraux pour lui dire qu'il avait le gardien de l'immeuble dans lequel il y avait son agence qui n'avait pas de logement après la guerre et il fallait absolument qu'il lui trouve un logement. Ou pour le soutenir, un jeune musicien qui monte, qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque, qui s'appelle Pierre Boulez. Enfin, il a vraiment une... Il se sert... D'abord, il se sent investi de cause, mais il défend aussi celle des autres. Mmh. Et bon, il défend aussi la sienne, parce qu'il pense qu'il n'est pas assez reconnu, mais il participe aussi aux autres.
Oui, oui. Et alors, notamment pour Picasso, il aurait voulu que Picasso soit plus attentif à lui, si je puis dire, parce qu'il rencontre Picasso, et il écrit à Picasso, mais on a peu d'écrits de Picasso vis-à-vis de Le Corbusier.
On n'en a pas même, à ma connaissance, parce que je pense que Le Corbusier les aurait gardés. Oui, oui. C'est vrai que c'était un modèle pour Le Corbusier, parce que surtout à l'époque, quand ils se sont plus rencontrés, ils s'étaient déjà rencontrés dans les années 20, au moment de L'Esprit Nouveau.
Oui.
Mais ce dont on parle...
Ni l'un ni l'autre aussi connu qu'il l'était après.
Non, je pense que Picasso était déjà quand même pas
oui,
mal connu.
Oui, Picasso, mais pas Le Corbusier.
Non, en tout cas pas comme peintre. Et donc, en fait, Le Corbusier a toujours souffert, pendant sa vie, surtout après-guerre, de voir que son œuvre de peinture n'était pas reconnue comme une œuvre majeure de l'art du XXe siècle. Et pour lui, c'était vraiment un crève-cœur. Il en souffrait énormément. Et donc... C'est vrai que le modèle de Picasso était quelque chose de très très fort pour lui et il souhaitait absolument pouvoir échanger avec lui. Mais on a, alors c'est très documenté parce que Le Corbusier s'est bien chargé de faire en sorte que ça soit très photographié. On a une visite de Picasso qui s'est arrangée pour aller voir l'unité d'habitation de Marseille, donc la cité radieuse, à la fin du chantier, dans les années 50, je crois, au tout début des années 50, non, j'exagère, mais en 49. Et on a donc toute la visite et on voit que Picasso est extrêmement intéressé, très attentif, il regarde partout. Et la visite a duré plusieurs heures. Donc Picasso avait vraiment se rendait compte qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait.
Absolument. Mais mon opinion, c'est que même en lisant la lettre qui est dans votre ouvrage, il le remercie, mais on n'a pas. Moi, je ne connais pas de retour de Picasso par rapport
non,
à.
Non, enfin, moi non plus.
Mais c'est ça. Ça a été un peu ce que vous avez dit d'ailleurs très justement. D'ailleurs, ces peintures n'étaient pas signées Le Corbusier. Elles étaient dessinées Jeanneret. Parce qu'il avait fait une séparation entre l'architecture, l'urbanisme et sa vie artistique antérieure. Et il les a signés pratiquement toutes Jeanneret. À un moment donné,
il a signé Jeanneret jusqu'en 1928. C'est ça. À partir de 1928, il signe toujours Le Corbusier. Et il revient souvent sur les mêmes thèmes. Oui. Mais effectivement, jusqu'en 1928, alors qu'il s'appelle Le Corbusier, en fait, il prend le nom, le pseudonyme donc, de Le Corbusier, à l'occasion de sa carrière littéraire. Puisque c'est pour signer, au moment de cette revue L'Esprit Nouveau, qui était quand même une toute petite chose, et pour avoir l'air important, parce qu'au tout début, c'était essentiellement aux enfants et lui qui écrivait, il s'était donné plein de pseudonymes. Et donc,
pour donner l'impression qu'il y avait plusieurs
voilà,
écrivains.
Voilà, qu'il y avait plus d'auteurs. Et donc, Le Corbusier était un de ces pseudonymes-là. Mais ses premiers projets étaient signés encore Jeanneret. Donc c'est à partir de 24 que Le Corbusier devient Le Corbusier en architecture et seulement 28-29 en peinture aussi.
Et alors, pour avoir lu les courriers de Frugès à Le Corbusier, il écrit à Messieurs Jeanneret architecte jusqu'en 28, puisqu'après Frugès s'en va.
Même après, parce qu'il y avait des gens, notamment particulièrement toute la mouvance suisse, il l'appelle Jeanneret presque jusqu'à la fin. Oui. Mais bon, c'est...
Oui, parce que Le Corbusier n'a pas fait d'études, comme vous l'avez dit, d'architecture. Et il s'associe avec son cousin plus jeune, Pierre Jeanneret, comme lui, et qui, lui, a un diplôme d'architecte suisse.
Absolument.
Et qui, donc, peut professer à Paris. Et donc, il crée leur cabinet, qui sera d'après rue de Sèvres. Il le crée et les projets sont signés par Pierre Jeanneret au niveau respect du règlement de l'ordre.
Je pense que oui, les permis de construire doivent être déposés. Je n'ai pas regardé Pierre Jeanneret, puisque Le Corbusier... Si en 1940, donc, sur sa carte d'identité figure la mention homme de lettres, c'est aussi parce qu'à cette époque-là, l'ordre des architectes est créé et il n'a pas le droit d'exercer puisqu'il n'a pas le diplôme. Enfin, il n'a pas le droit d'exercer en son nom propre, disons. Voilà. C'est une petite nuance, mais qui fait que notamment Le Corbusier aussi a, et ça c'est une dimension très importante qu'on sent également dans les lettres, à ce site particulier par rapport à d'autres architectes contemporains, qu'il est à la fois donc soucieux et très convaincu de l'importance de son rôle, mais aussi de l'importance de son œuvre. Et c'est sans doute pour ça qu'il est aussi fort, on va dire, c'est qu'il est en permanence en train de s'autocritiquer, de voir ce qu'il a fait, de revenir sur ses anciens projets, de se dire, mais là j'ai fait ça, est-ce que j'aurais pas dû faire ça, même s'il ne le montre pas vraiment. Et donc, comme outil pour ce retour sur lui-même, il a publié 7 volumes de ce qu'il appelle son œuvre complète, c'est-à-dire que régulièrement, tous les 5 ans, ça dépendait des périodes, il publie les projets et les réalisations qu'il a faites pendant la période. Et c'est lui-même qui fait la mise en page, qui sélectionne les photos, les plans, et qui écrit les textes. Donc il y a une espèce de regard comme ça, rétrospectif et critique, permanent sur sa propre œuvre, et les courriers ont aussi un peu cette fonction-là.
Oui, et aussi c'est parce qu'il sait qu'il fait une œuvre et qu'il veut qu'il y en ait des traces. Et notamment, vous avez une lettre que moi, évidemment, je ne connaissais pas toutes ces lettres, hein, connaissais certaines, mais pas.
Moi, il y a certaines
toutes
que je ne connaissais pas.
Et alors, il y a une lettre qui m'a étonné, c'est celle qu'il écrit à Walter Gropius, qui est un architecte allemand très célèbre, qui est un grand architecte et grand ami, puisque c'est celui parmi les architectes qu'il a connu en Allemagne, avec lequel il a gardé une relation, non pas seulement épistolaire, une relation personnelle, affective, longtemps, puisque c'est tous les deux qui ont créé le Siam, pratiquement. Mm-hmm. Alors que Mies van der Rohe, qu'il a rencontré quand il était en Allemagne, dit plus tard, je l'ai rencontré qu'entre deux portes, histoire de dire, je ne connais pas Le Corbusier, je ne sais pas qui c'est. Mm-hmm. Gropius, il écrit à Gropius le 11 mai 1953, sur un thème, moi j'ai été étonné en lisant cette lettre, que se passe-t-il quand un grand créateur casse sa pipe ? Et il fait une lettre énormément longue sur qu'est-ce que va devenir mon œuvre, comment il faut la ranger, je suis très désordonné, mais pourtant j'ai tout classé, qui va s'en occuper, pouvez-vous me dire comment il faut faire, etc. C'est étonnant depuis tout petit de se sentir avec un destin à accomplir. Et avant, 53, c'est 12 ans avant sa mort, il est loin d'être, et puis il a 53, 17, il a 70 ans. C'est ça à peu près, oui. Et de dire, mais alors là, mon œuvre, qu'est-ce qu'elle va devenir après ? Et tous mes croquis, et tous mes dessins, et toutes mes lettres, qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est assez étonnant quand même.
C'est très cohérent avec ce qu'on vient de dire sur la conscience, l'autoconscience qu'il a de son propre destin et de son, plus que son talent, enfin du message qu'il a apporté. Et alors, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais je ne pense pas qu'ils disent qu'il est désordonné, parce que dans le genre, alors là, pour le coup, vraiment psychorigide, pour les classements, c'est assez incroyable. Ou alors, il le dit peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Et je dois dire qu'en tant que chercheur, c'est absolument génial, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de créateurs pour lesquels on ait des archives aussi complètes, aussi bien, très, très bien organisées, bien conservées. Et donc, je pense que... Enfin, je ne pense pas, c'est clair. Il commence à parler de cette fondation Le Corbusier en 1948. Donc là, il a 50 ans. Donc c'était vraiment, je lègue à la postérité mes idées, mes bâtiments, mais aussi mon mode de travail, le témoignage de comment j'ai travaillé. Et ça, c'était très, très important pour lui. Et donc à la fin de sa vie, alors... Justement, également, il harcèle André Malraux aussi pour que tout ça soit mis sur pied avant sa mort. Et c'est à peu près le cas, les statuts sont déposés. Et de fait, actuellement, c'est une, comment dire, c'est une fondation qui vit correctement, qui emploie des gens. On a à disposition les documents, c'est vraiment un lieu très agréable.
Vous pourriez y être allé plusieurs fois, je suis étonné du nombre de visiteurs qu'il y a tout le temps. N'importe quelle heure de la journée. Quand on arrive, ils ouvrent à 1h30, je crois. Et quand on arrive à 1h15, il y a déjà du monde qui attend devant la porte. Mmh. Enfin, c'est étonnant.
Bah,
quoi.
Quand on va à la Villa Savoie...
C'est des chercheurs qui vont...
Oui, mais quand on va à la Villa Savoie, vous avez des Chinois, des Japonais qui viennent quasiment à genoux, des Australiens. Enfin, Et puis aussi, bien sûr, des gens du coin. Mais c'est quand même une... Ça reste un des sommets, on va dire, un must quoi, de l'architecture moderne.
Oui, vous avez raison, je vais dire des deux phrases. Une où il dit qu'il est très rangé, une où il dit qu'il n'a pas eu le temps de s'en occuper, mais c'est quand même étonnant. Et il dit, il n'y a plus que cela encore, il y a plus de 40 manuscrits de mes livres qui sont tous classés proprement et qui comportent le manuscrit original et les premières œuvres, etc. Mmh. Donc là, il dit bien qu'il a classé. Mais après, il dit, je n'ai jamais eu le temps ni le goût de m'occuper de cela, les journées étant trop courtes, c'est au sujet de ses œuvres peintures.
Oui, non, mais ça, c'est une aussi, comment dire, c'est une remarque un peu rhétorique, parce qu'en fait, c'est pas vrai, ils s'en occupaient beaucoup. Cela dit, quand on travaille un peu régulièrement sur lui, quand je vois tout ce qu'il a fait dans les différentes disciplines, je ne sais pas quand il dormait, quand il trouvait le temps de faire tout ça, parce que bon, il était manifestement très efficace dans son travail, mais comme en plus il voyageait beaucoup, là c'est incompressible, mais bon, bah, il écrivait ses livres dans l'avion.
Il écrivait beaucoup dans l'avion et sur le bateau. Mm-mm. Il travaillait beaucoup, ce qui est effectivement un lieu d'un peu où on est isolé. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque d'ailleurs, ni encore moins de portable. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est par rapport à ses élèves ou ses compagnons de route, José Louis Sert notamment, qu'il aimait bien, qui est un grand architecte, son côté, non pas seulement paternalisme, mais en même temps reconnaissant du travail de José Louis Sert et d'échange qui fait la qualité de l'homme aussi.
Tout à fait. Alors à l'époque, la lettre, je crois, que je reproduis, correspond à une époque où José Louis Sert, qui est l'architecte de la fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence,
très belle,
magnifique, oui, avait émigré aux États-Unis et était donc le dean, enfin le directeur de l'école d'architecture de Harvard. Et à ce moment-là, Sert avait un peu intrigué pour que Le Corbusier ait une commande sur le campus de Harvard. Et donc, il a suivi le chantier de ce bâtiment, qui était un bâtiment, disons, culturel, à la fois d'école et d'exposition, qui était un bâtiment d'ailleurs très, très étrange, le Carpenter Center. Et donc, Sert est son factotum, quoi. Mais il le ménage toujours, Le Corbusier, c'est vrai.
Oui. Oui, toujours. Alors, je trouve que je connais je suis allé souvent aux États-Unis, je connais ce projet qui est sur le campus de Harvard, Cambridge, et je connais, il y a un immeuble à côté fait par Sert, qui est absolument une clinique fait par Sert, qui est absolument extraordinaire. Alors, c'est très amusant parce qu'on voit dans la clinique de Sert des éléments d'architecture, de vocabulaire architectural, qui sont ceux qui sont dans le projet que Sert a surveillé pour Le Corbusier. Très belle école. Il y a la rue, la promenade piétonne qui traverse l'école. C'est-à-dire quand on se promène dans le parc, on suit une rampe et on passe à l'intérieur du volume et on aperçoit les salles de classe où les élèves en architecture font des maquettes ou des salles d'exposition. C'est assez extraordinaire comme projet.
Mais oui, Le Corbusier, en fait, a inventé aussi, et c'est ça qui le différencie d'autres très grands architectes modernes comme Gropius ou Mies van der Rohe. Il a inventé vraiment des concepts, des dispositifs architecturaux qui existaient peut-être déjà avant, mais auxquels il a donné un nom et sur lesquels il a théorisé et qu'il a explicité. Et ça, il a passé son temps à mettre au point, donc ce ne sont pas des concepts philosophiques, mais vraiment des notions qui allaient devenir très importantes pour l'histoire de l'architecture. Par exemple, en 1929, il profère vraiment ce qu'il a appelé les 5 points d'une architecture nouvelle. Donc il dit pas moderne justement, il dit nouvelle. Et ces 5 points, c'est les pilotis, la fenêtre en longueur, le plan libre, etc.
La terrasse jardin.
La toiture terrasse et la façade libre. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on dissocie l'ossature et les parois. Enfin, ça devient peut-être un peu technique. Mais à la même époque aussi, il théorise la promenade, ce qu'il appelle la promenade architecturale. C'est donc tout à fait ce qu'il met. Mais donc ça, il le théorise dans les années 20. Et en, je ne sais plus, c'est 60 même, le Carpenter Center,
oui,
je crois.
À peu près, oui.
Il la réutilise en 60, de même qu'il la réutilise aussi dans les bâtiments officiels pour la ville de Chandigarh. Donc il y a une espèce de constance comme ça qui traverse son travail, qui est assez impressionnante. Et après, au niveau urbanistique, il théorise aussi les trois établissements humains. Enfin, il passe son temps à définir de nouveaux concepts, à les nommer, à écrire dessus, à les expliciter, à éventuellement les modifier un peu avec le temps. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier. Il en parle, c'est aussi l'inventeur du modulor, par exemple, qui est un système de mesure qu'il invente, qui rejoint certaines notions de proportion qui existent depuis la Renaissance, mais lui trafique un nouveau système avec des mesures humaines non métriques. Et c'était... Et à la fin, il réalise tous ses bâtiments à partir de ce système de mesure.
Qui est d'ailleurs, la résultante, plus exactement, de toutes ces notes qu'il a prises pendant ses voyages, quand il avait 20 ans, 22 ans, 23 ans. Il a mesuré à quelle hauteur étaient les chaises à Istanbul. Il a mesuré la hauteur des appuis des fenêtres. Il a mesuré la hauteur des fenêtres. Et il en a tiré une constante par rapport à un homme dont l'œil serait à 1,70 m, si je me souviens bien, et la tête à 1,83 m pour les plus grands. Et il en a fait une règle.
Oui, d'ailleurs, il a fait donc ce système de mesure et de proportion surtout. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, Chanin, on dit oui, c'est un autoritariste, c'est un fasciste. Regardez, il faut que tout le monde ait la même taille, 1,83 m, les petits, les trop grands, ça ne marche pas. C'est complètement absurde parce que c'est bien sûr, c'est un système de proportion, c'est une image de dire que c'est 1,83 m, c'est pas... Enfin, lui, c'est une de ses bases de mesure, mais il sait très bien que tout le monde ne mesure pas 1,83 m, il n'a pas l'intention de mettre sur des échasses ceux qui font moins et de casser les pieds à ceux qui en feraient plus, quoi. C'est une espèce de... Là aussi, il y a une part de provocation, enfin de radicalisation du propos pour que ça marque vraiment les esprits.
On n'a pas parlé ce soir de son ami Ritter, William Ritter, qui est un Suisse qui va vivre à Munich avec un compagnon et ils vont devenir, surtout Ritter, son confident. Mais confident épistolaire surtout, enfin, se voit de temps en temps. Mais ils vont écrire, alors vous dites plus de 120 lettres, si je me souviens bien, et j'avais lu dans un autre livre 400 lettres. Enfin, ils vont s'écrire beaucoup de lettres.
Alors, je peux vous dire pourquoi, parce que vous l'avez lu, elles ont été publiées par une chercheuse qui s'appelle Marie-Jeanne Dumont. C'est passionnant, mais elle a publié aussi les lettres retour. C'est pour ça qu'elle arrive à 400.
Ah oui, d'accord.
Et qu'en fait, il y en a 220 conservées de Le Corbusier, parce qu'il y en a peut-être même encore plus, quoique Ritter était tout autant scrupuleux sur sa correspondance que Le Corbusier. Et William Ritter, quand Le Corbusier le connaît, il a au moins 20 ans de plus que lui. C'est un critique d'art assez reconnu, un peintre aussi... qui a son public. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de 1920, les rôles s'inversent. C'est-à-dire que Ritter tombe un peu dans l'oubli. Il a des difficultés financières et de reconnaissance, alors que Le Corbusier devient de plus en plus célèbre. Et c'est une des rares personnes qui sont issues de la toute première jeunesse de Le Corbusier, avec qui il correspond jusque assez tard, quoi, qu'il ne renie pas.
Avec Blaise Sandrart.
Alors Sandras, il l'a, oui, mais Sandras, il l'a pas connu, jeune.
John, qui est né deux rues après.
À côté. Deux rues après et une semaine après. Donc c'est vraiment, ce sont des quasi-jumeaux.
Et ils se rencontrent très tard, quand ils ont 25 ans, voilà, à peu près.
Un peu plus, même 30 ans,
oui, c'est ça. Et c'est Blaise Sandrart sera très important, parce que Blaise Sandrart était au Brésil, et c'est Blaise Sandrart qui va... œuvrer, se mettre en relation avec des personnalités assez importantes pour que Le Corbusier soit invité à venir faire une conférence au tableau comme il savait faire à Rio. Et c'est extraordinaire, moi qui suis architecte, je sais combien c'est difficile d'avoir des clients et de professer. Et lui, il arrive, il ne connaît personne, Le Corbusier là-bas, il fait un discours et tout, et aussitôt on lui propose de faire des travaux. C'est quand même chance d'ailleurs, mais il faut dire qu'il devait avoir une capacité de persuasion et de conviction assez extraordinaire.
Ah oui, oui, c'est vraiment un rhéteur accompli. Alors, bon, il faut quand même dire qu'il a fait beaucoup de projets dans sa vie, surtout des projets d'urbanisme. qui ne se sont jamais réalisés, d'autant plus qu'en fait, ils n'avaient pas de commandes. C'est-à-dire que les plans de Buenos Aires ou pour Rio, en fait, il les fait, mais c'est un peu, il les fait comme un peu des, comment on appelle ça, du teasing, enfin pour, oui. pour allécher les commanditaires potentiels, mais il ne fera rien du tout dans le, en Amérique du Sud.
Ni à Alger.
Malgré toutes ces tentatives, effectivement. Il ouais. est...
Mais c'est, ça a été souvent le cas avant Le Corbusier, et encore ça arrive, que des architectes fassent des propositions. Mmh, mmh. Lui, il a été un spécialiste.
Ah, oui.
Et il en a fait des livres, d'ailleurs. Et sur Blaise Cendrars, ce qui est étonnant, c'est que quand même, il va lui écrire longtemps. Il va... Alors qu'avec 11 enfants, il va y avoir une rupture importante et rapide, mmh. finalement, par rapport à leur longueur de vie. Et puisqu'il rencontre Blaise Cendrars au MoMA, au musée de New York, dans les années 30, et il parle à ce moment-là avec le conservateur du musée, et le conservateur du musée, et aux enfants les voit, et aux enfants s'approchent. Et Le Corbusier le regarde comme ça. Les enfants lui disent, mais rappelle-toi, parce que c'est avec aux enfants qu'il est parti. C'est quand même grâce aux enfants qu'il a écrit L'Esprit Nouveau, qu'il a fait tout ça. Et les enfants lui disent, mais tu te souviens bien, à Paris, nous étions deux cons, l'air de dire, deux jeunes. Et Le Corbusier le regarde et dit, et maintenant, il en reste un, c'est toi. Et il s'en va.
Oui, il avait ce sens de la formule qui marchait.
Qui est très dur.
Bien, bon. Peut-être qu'aussi c'est apocryphe, mais enfin pourquoi pas.
Oui, c'est sans doute. Enfin, moi, j'étais pas.
Non, mais ce qu'il y a de certain, c'est que Le Corbusier mélangeait à la fois ce côté extrêmement dur et peut-être même parfois caractériel, et donc la dispute, la rupture avec aux enfants, qui au fond n'avait pas supporté que petit à petit, alors que c'était lui au départ le mentor de Jeanneret à l'époque, et il a très mal supporté que Le Corbusier devienne plus reconnu que lui, notamment en architecture. Donc il y a eu une rupture avec notamment des problèmes financiers autour de la revue L'Esprit Nouveau, qui était définitive et extrêmement violente, avec procès, etc. Alors qu'avec d'autres personnes, il a noué des amitiés, pour le coup réelles, pas comme avec Picasso, qui ont duré toute leur vie. Notamment, je pense à Fernand Léger oui. et Blaise Cendrars, justement. Ils se voyaient en couple, les trois couples ensemble. Ils partaient en vacances, ils allaient se faire des week-ends à la campagne. Et donc là, jusqu'au bout de leur vie réciproque, ils sont restés très proches.
Oui. Voilà, il y a, ce livre est très riche, il y a plein ce qui est surtout le plus intéressant, enfin pour moi, c'est les croquis aussi, parce que les croquis traduisent bien, en plus du texte, les préoccupations qu'il avait, notamment il y a un croquis sur... Alors il se dessine, vous l'avez bien expliqué ça, à un bout d'un moment, il signe, et surtout, quand il parle de lui, il dessine un corbeau. Et alors, après, il y a toute une histoire d'âne et de corbeau. Est-ce que c'est l'âne qui monte sur le corbeau, le corbeau qui monte sur l'âne, dans le sens métaphorique il illustre ses propos. Et il y a des dessins, il y a des dessins très beaux. Il y a des dessins comme ça, qui sont des dessins très, très beaux, qui sont tout à fait dans l'esprit de Le Corbusier, parce qu'il avait un style, en fait. Il avait un style dans ses croquis.
Oui.
Un trait très fin, comme ça, presque continu. Il savait faire des paysages, des choses...
Oui, on voit vraiment l'apprentissage, notamment du graveur de montres. Le Corbusier était un dessinateur incroyable, c'est-à-dire que sur ses carnets de croquis, où ce n'est pas du tout des dessins pour lécher, pour être exposé, en trois coups de crayon, le paysage ou la personne qu'il dessine est présente. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et si on parle de coups de crayon... Moi, personnellement, je trouve qu'il a une très belle écriture aussi. Donc, ça fait que les objets lettres qu'on reproduit ont une graphie qui est très, très vivante et souvent assez, assez belle, je trouve. Il avait, en plus, le sens de la mise en page. Donc, pas toujours, bien sûr, mais dans certains cas, les lettres sont vraiment des petits bijoux. Là, par exemple, celle que vous êtes en train de regarder.
Voilà,
ça, voilà c'est pas facile.
Là, où il y a l'écriture ménage un carré blanc au milieu. Et au milieu de cette écriture, de ce carré blanc, vous avez ça, là, vous voyez. Ce nez, cet œil et un petit texte qui fait la joue.
Oui, et alors, l'œil, en fait, il fait l'œil parce que, et d'ailleurs, il l'explique dans la lettre, parce que c'est une tache. Il a fait un pâté avec son stylo et à encre. Et donc après, il se dit, bon, moi, je ne vais pas faire laisser cette tâche-là. Donc, il fait un personnage et il dessine un petit portrait autour, quoi. Et il explique même, parce qu'il se moque quand même de lui-même, il explique, c'est à sa mère, oui, c'est ça. Il lui explique, tu vois, j'arrive à m'en sortir même quand je fais des tâches. Donc, il y a ce côté aussi qu'on connaît très mal et qui n'est pas très, très présent. On ne peut pas dire que Le Corbusier était un grand rigolo, mais dans ses lettres donc, privées, on voit poindre un peu d'auto-ironie, d'humour. Et ça, normalement, on ne connaît pas cet aspect-là de sa personnalité parce que ce n'est pas non plus si important.
Voilà, après, il y a des croquis de paysages. Là, on parlait, moi, ce que je trouve très beau, voilà, par exemple, un paysage, ben, c'est deux traits, enfin, pas deux traits, mais très peu de traits. La côte au loin, c'est un trait, plus le profil du paysage, la baie, ben, tout est placé, tout est juste, quoi. Ça, c'est...
Et d'ailleurs, le dessin que vous venez de montrer est en fait un extrait d'un document qui est très célèbre chez les architectes, qui s'appelle « La lettre à Madame Meyer ». Madame Meyer était, qu'on voit juste la page d'avant, en entier, encore avant.
Mais je vais faire.
Qui est un immense, en termes d'architecture, on appelle ça un drap de lit, donc un très très grand plan sur calque, qu'il met en page comme si c'était une lettre, avec même une calligraphie, comme s'il signait au XVIIIe siècle, comme si c'était sur un parchemin, avec plein de petites vignettes représentant des vues du projet de la villa qu'il est en train de lui dessiner. Et ça, c'est vraiment une manière de mettre en scène sa propre architecture projetée. Il n'y a pas de document équivalent, à ma connaissance, dans l'histoire de l'architecture.
Comme un manga, presque.
Presque, oui.
Comme une bande dessinée.
Oui, oui. Tout à fait.
comme un scénario de film, souvent un script.
Oui, parce qu'en fait, il déroule la visite dans le bâtiment. Donc, vous rentrez là, et en plus, il la raconte. Vous rentrez, attention, baissez la tête, enfin, de manière très, très vivante.
Et après, il a une petite perspective du cœur de la maison à la fin.
Ouais.
Et puis, sur le dernier dessin, il y a comme un effet de ruine, et puis, il y a comme une fissure dans le rocher, et il y a une petite fleur. C'est là qu'on peut voir que M. Chalin n'a pas tout à fait bien vu M. Le Corbusier.
Il a vu le sien.
Oui. Donc,
c'est vrai que la polémique a été très importante récemment sur les choix politiques de Le Corbusier, surtout dans les années 30. Et ben, comme toute histoire, c'est plus compliqué que ce que ça peut paraître. Et donc, en fait, si on doit parler de ce sujet-là, ce qu'on peut dire, c'est que Le Corbusier était à côté de la plaque. C'est tout. Parce qu'il était traité de bolchevique par l'extrême droite et au même moment, il allait courtiser Mussolini parce qu'il souhaitait avoir des commandes de l'Italie qui est fasciste, qui était en train de réaliser beaucoup de projets. Donc c'est vraiment... Il oscille d'un côté à l'autre, comme ça pouvait se faire pas mal à l'époque, plus par absence de discernement et par volonté d'avoir des commandes qu'autre chose.
Oui, alors je vais le dire plus noblement, pardon, parce que j'aime beaucoup Le Corbusier. En fait, comme il savait qu'il avait un destin, ou comme il pensait qu'il avait un destin, ce qu'il voulait, et ce qu'il dit tout le temps, dès après la guerre de 14-18, il dit il faut construire parce que les gens n'ont pas de logement, on a beaucoup détruit, ce qu'il va redire après la guerre de 45. Et donc, il dit, mais moi, je sais comment il faut faire pour construire. Et quand il va à Vichy, il habite à Vézelay avec sa femme, Jules Romain, à côté de Vichy, et il va à Vichy, non pas parce qu'il est vichyciste, non pas parce qu'il est pétiniste, pas parce qu'il est fasciste, il y va pour dire, mais moi, je sais faire des logements. Donnez-moi des logements à faire et je vais résoudre la crise du logement. Et il va à Mussolini pour la même raison. Il n'y va pas parce qu'il est convaincu des théories politiques de Mussolini. Il y va parce que moi, je suis un architecte qui peut résoudre la crise du logement. C'est donc plutôt par charité. Bon, j'exagère.
Peut-être. Juste pour conclure, alors, donc on a sorti sans difficulté de lettres certaines, ce qu'on appelle des relances, c'est-à-dire des petites phrases, des formules tirées des lettres. Et là, puisqu'on parle du côté plus... On a parlé du côté plus humain et attendrissant du personnage. Il y a un moment à sa femme, donc, il lui écrit « À tout instant, tu es dans ma pensée, à la maison ou hors de la maison. » C'est-à-dire qu'il pense à elle alors qu'en fait, il la voit très peu.
Voilà, je crois qu'on a pratiquement tout dit. Je vous propose de bien vouloir... Achetez cet ouvrage, parce que vous verrez, vous aurez une autre façon. Vous verrez Le Corbusier sous un autre angle. Et c'est très intéressant. Tout en connaissant sa vie, parce que c'est sa vie que vous racontez.
C'était le propos. Merci.
Merci.